en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, permettez-moi d'expliquer en quelques mots l'intitulé que j'ai retenu pour la communication que vous m'avez fait l'honneur de me demander. La création sans le créationnisme, voilà un programme qui peut ressembler à un vœu contradictoire, comme réclamer des sucreries mais sans caries, l'ivresse sans la vésalgie, ou si vous préférez la cuite sans la gueule de bois, le prêt sans les intérêts, etc. Alors, est-ce qu'il est possible de revendiquer une thèse, l'affirmation que le monde est créé, sans avoir à traîner les casseroles créationnistes et leur tintamarre de revendications fondamentalistes? C'est la position que je vais défendre. Je vais, pour ce faire, proposer et tenter de justifier une distinction entre une thèse métaphysique de la dépendance de l'univers par rapport à un créateur, et je l'opposerai à la position pseudo-scientifique créationniste. Alors, la position du créationnisme pseudo, enfin prétendu scientifique, revient à affirmer que les sciences de la nature seraient en mesure de nous prouver l'existence d'un créateur. Ce qui revient à concevoir la production de l'univers par un agent surnaturel comme un événement ou un processus justiciable de l'enquête scientifique. La thèse métaphysique de la création, au contraire, c'est une affirmation qui se prétend rationnelle, mais pas scientifique. Elle suppose donc que les sciences de la nature n'aient pas le monopole de la rationalité. Et c'est l'affirmation selon laquelle le monde doit son existence à un agent surnaturel, mais cette dette d'existence n'est pas un processus physique, c'est une relation de dépendance ontologique. Je vais donc d'abord proposer des raisons de principe qui me poussent à récuser les tentatives créationnistes, avant de suggérer quelques raisons d'adopter la thèse métaphysique de la création. Alors, en m'attaquant au créationnisme, je m'attaque à beaucoup, une nébuleuse de conceptions qui, historiquement et géographiquement, sont susceptibles de très nombreuses variétés. Pour dire rapidement, le créationnisme, ou plutôt ses nombreuses variétés, a sans doute d'abord eu partie liée avec l'interprétation littérale des nombreux récits cosmogoniques parsemés sur la planète, les hymnes de la Haute Égypte, du Rig Veda, les hymnes babyloniennes, la Théogonie, le livre de la Genèse, mais également des récits qu'on trouve chez les Indiens d'Arizona. C'est pas spécifique à une ère culturelle particulière. La création faisait via ces récits l'objet d'une révélation, semblait-il, et cette révélation prend la plupart du temps la forme narrative, avec les contraintes propres au récit, des personnages, un décor, une durée de l'action, un rythme. Et toute collectivité humaine ayant besoin de s'unir ou de se réunir autour d'une histoire commune, le genre narratif de la cosmogonie est devenu une sorte d'universel anthropologique. Cette mise en récit chronologique a laissé sur le concept de création une empreinte folklorique savoureuse, mais très dommageable pour la discussion de la thèse métaphysique. Alors, on se doute que le progrès des sciences astronomiques, cosmologiques, archéologiques, géologiques, biologiques a été la source de conflits entre les interprètes autorisés des récits surnaturels et les tenants de l'autorité des sciences de la nature. Mais loin d'abandonner la partie, et malgré les nombreux dénouements de ces conflits, les représentants du créationnisme contemporain entendent aujourd'hui utiliser les données scientifiques elles-mêmes pour restaurer l'affirmation d'une création du monde. Sur un mode plus ou moins littéral, il y a des créationnistes jeunes terres qui se tiennent à un calendrier biblique strict, des créationnistes plus expansifs, vieilles terres. Certains estiment qu'il y a une correspondance entre, par exemple, si l'on prend comme référence le récit de la Genèse, entre les jours de la création et les aires géologiques. Mais on a vu également fleurir des sciences de la création dans les années 60, nombreux instituts de creation research aux États-Unis, à Chicago notamment. Et leur but était d'étayer, par exemple, le récit du déluge sur des données géologiques ou d'imaginer, ça s'est vu, un scénario scientifique de création de la Lune. Alors, évidemment, l'utilisation d'un récit biblique ou autre comme chronologie cosmologique, géologique et préhistorique scientifiquement fiable est assez consternante, puisqu'elle revient à enrôler le concept de création dans une interprétation littérale. Un épisode particulièrement grotesque s'est produit en plein 19e siècle. Les progrès de la géologie et de l'archéologie sont tels que on met en évidence l'existence de strates géologiques très anciennes qui compromettent la lecture fondamentaliste de la Bible, qui plaçait la création du monde environ 4000 ans avant l'ère chrétienne. Qu'à cela ne tienne, dans un excès de zèle, tel naturaliste américain défendra l'idée que Dieu a semé des fossiles dans le sous-sol terrestre afin de confondre l'orgueil des savants. On aurait tort de crier au fondamentalisme évangélique américain, car notre Chateaubriand lui-même proposait bien avant la même réponse, en balayant d'un revers de main les raisonnements qui reculent l'origine du monde. Chateaubriand affirmait, je le cite, dans le génie du christianisme, « Dieu a dû créer et a sans doute créé le monde avec toutes les marques de vétusté et de complément que nous lui voyons. » Chateaubriand avait, semble-t-il, pressenti la notion d'obsolescence programmée. À la décharge et à la défense de Chateaubriand, il faut dire que le génie du christianisme contient également, dans les notes, des raisonnements totalement dénué de créationnisme, dans lequel il est fait droit, à la suite de Clark, dont je reparlerai plus tard, à un concept purement relationnel et non chronologique de création. Alors, quel est en gros le défaut de la cuirasse créationniste ? Les créationnismes scientifiques, même rangés sous la bannière de dessin intelligent ou de complexité irréductible, prétendent que l'enquête scientifique est en mesure de mettre en évidence une intervention surnaturelle. Or, par limitation méthodologique, les sciences de la nature ne sont pas compétentes pour traiter d'hypothétiques entités surnaturelles. La création, on peut le regretter, enfin, ce n'est pas une question de physicien. Nous ne disposons pas d'un hylomètre, par exemple, instrument qui nous permet d'affirmer qu'à tel moment de l'histoire cosmique, nous sommes en présence du néant. Nous ne sommes pas équipés d'un théoscope permettant d'observer l'interaction de Dieu et du néant, dont résulterait, moyennant la production de photons virtuels et une conservation de l'impulsion totale, un univers visible et un univers invisible. Nous ne disposons pas non plus d'outils théoriques nous permettant d'affirmer l'inexistence absolue, à un moment donné, de tout facteur, cause ou antécédent physique. Je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas là de limites accidentelles. C'est par méthode que l'enquête scientifique doit définir des variables, des structures, des paramètres. Elle ne décrit pas le néant. Et quand elle vient à parler de fluctuations du vide quantique, elle parle de structures physiques très dynamiques et causalement reliées à des entités observables et mesurables. Ce qui n'est pas le cas du néant censé précéder la création. L'enquête scientifique suppose donc des dimensions, et moyennant la détermination de conditions initiales, elle entreprend de prédire ou d'expliquer l'évolution des systèmes physiques. La création n'est pas l'évolution d'un système physique. C'est, le cas échéant, l'opération qui fait qu'il y a un système physique plutôt que rien. Le défaut du créationnisme, pour autant, n'est pas de chercher à dater l'univers. Les modèles cosmologiques contemporains se livrent eux aussi à des estimations de la durée appartenante de l'univers observable. La faute consiste plutôt à imposer à la recherche scientifique un cahier des charges qu'elle ne peut pas tenir, en confondant deux concepts très différents d'origine, l'origine causative, permettez-moi ce néologisme, et l'origine temporelle. J'emprunte à Chalcidius, traducteur et commentateur du Timée de Platon, cette distinction, donc qui n'est pas si récente que cela, hein. Et en bon lecteur de Platon, Chalcidius affirme que l'origine du monde est causative, mais non pas temporelle. Origus igitur eius causativa non temporaria. Et Chalcidius poursuivait, hein, ainsi il se peut que le monde sensible, même s'il est corporel, soit éternel, et cependant qu'il soit fait et ordonné par Dieu. Augustin, Avicenne et tant d'autres affirmeront que l'acte créateur n'est pas un principe de mouvement qui ressortit à la physique, mais un principe donateur d'existence qui n'est pas lié à une chronologie ou à un timing particulier. Thomas d'Aquin reprend d'ailleurs l'idée d'une priorité de Dieu sur le monde en nature, natura tantum, et non selon la durée, non durationnée. Leibniz fera lui-même état, sur le ton d'une évidence bien connue, de la possibilité d'un monde éternel. Licet ergo aeternum mundum fingeres, et cependant un monde qui dépendrait inévitablement d'une raison dernière des choses, d'une raison extramondaine. J'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est sans doute avec Samuel Clarke, que cite Chateaubriand avec éloge, et que dont Voltaire faisait ses délices, c'est Samuel Clarke qui est le plus explicite, et il tombe là-dessus d'accord avec Leibniz, qui est pourtant son adversaire lors d'une controverse célèbre qui l'oppose au sujet de concept d'espace et du temps dans la conception newtonienne. Je cite Clarke, « Il ne s'agit pas entre nous et les athées de savoir s'il est possible que le monde soit éternel, mais s'il est possible qu'il soit l'être original indépendant, existant par lui-même. Ce sont deux questions très différentes. Plusieurs de ceux qui ont embrassé la première se sont déclarés sans détour contre la seconde. Mais ces questions, en quel temps le monde a-t-il été créé? La création a été faite à proprement parler dans le temps. Ces questions, dis-je, ne sont nullement faciles à décider par la raison, comme il paraît par la diversité des opinions que les anciens philosophes ont eues sur cette matière. Ce sont des choses dont il faut aller chercher la décision dans la révélation. Autrement dit, si Clark pose un diagnostic fiable, il n'y a pas d'un côté les philosophes qui pensent que le monde est créé parce qu'il a un commencement, ou plutôt une durée appartéantée, et de l'autre, ceux qui estiment que le monde n'est pas créé parce qu'il est éternel. Les deux critères de la durée d'existence du monde et de sa dépendance ontologique sont relativement indépendants. Nous avons donc non pas deux, mais quatre possibilités. On peut concevoir un monde éternel et existant par soi, c'est celui d'Épicure en un sens, ou de Spinoza. On peut concevoir un monde temporellement fini et qui se met à exister par soi, c'est dans une certaine mesure une suggestion de David Hume, elle est pas très intuitive, mais au fond, il n'est pas certain qu'on puisse y trouver une contradiction conceptuelle. Troisièmement, un monde qui soit l'effet éternel d'une cause éternelle, c'est un monde envisagé par Philon, qui est très en faveur chez les néoplatoniciens, c'est Avicenne, c'est Averroès. Cette possibilité niée par Bonaventure, mais elle est accordée par Thomas d'Aquin, au moins comme possibilité rationnelle, et puis Leibniz-Clark. Et puis enfin, le scénario plus souvent retenu, un monde temporellement fini et qui existe en vertu d'une cause. Étienne Klein a, je trouve, très bien reformulé cette double acception du terme origine, origine causative et l'origine temporelle, en distinguant la question d'où vient l'univers de la question d'où vient qu'il y a un univers. La question d'où vient l'univers est une question de traçabilité physique, et la question d'où vient qu'il y a un univers, c'est une question d'explication ultime. L'une implique un concept physique de commencement, l'autre un concept métaphysique d'origine radicale. C'est une question d'explication ultime et qui n'est pas justiciable d'une observation, d'une théorie prédictive reposant sur diverses observations de divers états de l'univers. Et les créationnistes, m'a-t-il semblé, ont une fâcheuse tendance à confondre ces deux questions. Alors, cette distinction entre l'origine causative et l'origine temporelle, Georges Lemaître, fondateur de la théorie du Big Bang, n'a cessé de la maintenir. Contre d'ailleurs les instrumentalisations apologétiques ou anti-apologétiques dont il a fait l'objet. On soupçonnait d'avoir favorisé un modèle présentant une durée finie de l'univers en disant « oui, c'est un religieux, par conséquent, il veut favoriser une conception créationniste hein. ». Et inversement, on voulait lui faire dire que la finitude temporelle de l'univers impliquait forcément sa création. Je le cite « Personnellement, j'ai toujours essayé de montrer que la science laissait place à un commencement naturel du monde ». Et à moins d'avoir une science du surnaturel, je ne vois pas de quoi il pourrait être question. Sinon, il affirme qu'il ne s'agit absolument pas, je cite, de considérer scientifiquement une création surnaturelle du monde. Et donc, à rebours des tentatives de récupération apologétique, il affirme que le fait de ne plus pouvoir extrapoler les lois physiques vers le passé à partir d'un certain moment, le fameux temps de Planck, ça a été précisé après lui, l'impossibilité d'extrapoler les lois physiques vers le passé ne nous autorise pas à parler de création surnaturel. L'absence d'extrapolation ne nous permet pas d'extrapoler vers l'absence. Ou le néant d'extrapolation ne nous permet pas d'extrapoler vers un néant qui précéderait. Alors, sur cette question, je prends encore à témoin une des déclarations au congrès Solvay de 58. Une telle théorie, c'est donc son hypothèse cosmogonique de l'atome primitif qu'on a surnommé le Big Bang, une telle théorie reste entièrement en dehors de toute question métaphysique ou religieuse. Elle laisse le matérialiste libre de nier tout être transcendant. Et il ajoute, dans une interview plus récente, « Le problème de la création garde tout son sens métaphysique dans le sens de la dépendance de tout être de nous-mêmes. Ce problème serait totalement dégagé de la cosmogonie. » Et un autre maître de Louvain, Jean Ladrière, écrit ceci, « Quoi qu'il en soit du moment initial, il importe en tout cas de se rappeler que la question de la création est totalement indépendante de la question du commencement, en tout cas au point de vue métaphysique. Le concept de création est métaphysique, non physique. » Et c'est faute de distinguer ces deux questions qu'on se livre à des inférences douteuses, encore une fois, qu'elles soient théistes ou athées. Comme par exemple la célèbre déclaration de Stephen Hawking dans sa brève histoire du temps, il affirme ceci, « Tant que l'univers avait un commencement, on pouvait supposer qu'il avait un créateur. » Mais si l'univers était vraiment complètement autocontenu, sans bord ni frontière, il n'aurait ni commencement ni fin, il serait tout simplement, quelle place resterait-il pour un créateur? Le raisonnement de Hawking stipule que pour avoir un créateur, l'univers doit avoir un commencement, et sa contraposée, pas de commencement, pas de créateur. Alors, certes, si les sciences de la nature étaient en mesure d'affirmer qu'à un moment donné, il n'y a rien du tout, il était une fois rien, mais vraiment rien du tout, alors l'existence subséquente de quoi que ce soit réclamerait une explication, et l'explication théiste ne serait pas en mauvaise posture, quoique à ce point, on pourrait dire, non, les choses se mettent à exister d'elles-mêmes. Mais la prémisse « il était une fois rien du tout » reste, me semble-t-il, hors de portée des sciences de la nature. Et quand même elle le serait, rien n'autorise un physicien à boucher les trous de l'explication scientifique en mobilisant des entités surnaturelles. Mais symétriquement, le fait qu'il ait toujours existé par hypothèse une réalité physique n'en donne pas pour autant une explication ultime. Et c'est le point auquel j'arrive maintenant. J'ai jusque-là essayé de défendre et d'illustrer avec quelques témoignages la distinction entre la création conçue comme processus de transformation physique et la création conçue comme relation de dépendance ontologique. J'ai affirmé que le premier concept ne donnait pas prise à un traitement scientifique. Je n'ai pas pour autant montré que cette relation de dépendance ontologique, qui est la version alternative, fut rationnellement défendable. Quelle raison pouvons-nous donc avoir d'affirmer l'existence d'une origine causative de l'univers, quoi qu'il en soit de son origine temporelle? Que pouvons-nous répondre? Et d'ailleurs, pouvons-nous seulement répondre à la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Alors le fait que les réponses soient divergentes à cette question, le fait qu'un certain nombre d'anti-métaphysiciens prétendent avoir prouvé qu'on ne pouvait plus se poser la question, que nous n'étions pas équipés pour poser cette question, n'empêche pas cette question de faire de fréquents retours. Et je propose de l'instruire avec la comparaison proposée par Leibniz, encore une fois, qui argumente en faveur donc de l'existence, d'une raison suffisante de l'existence des choses, mais qui ne serait dans aucune des choses singulières, ni dans l'agrégat ou la série des choses, mais qui leur serait extérieure. Et pour ce faire, donc, il utilise une comparaison intéressante, je le cite, « Supposons que le livre des éléments de la géométrie ait existé de tout temps. » Un Euclide éternel, qui aurait de tout temps produit cette géométrie. « Et que les exemplaires en aient toujours été copiés l'un sur l'autre. Il est évident, dit Leibniz, bien qu'on puisse expliquer l'exemplaire présent par l'exemplaire antérieur sur lequel il a été copié, qu'on n'arrivera jamais, en remontant en arrière à autant de livres qu'on voudra, à la raison complète de l'existence de ce livre, puisqu'on pourra toujours se demander pourquoi de tels livres ont existé de tout temps, c'est-à-dire pourquoi il y a eu des livres et pourquoi ainsi rédigés. Ce qui est vrai des livres, dit Leibniz, est vrai aussi des différents états du monde, dont le suivant est en quelque sorte copié sur le précédent, bien que selon certaines lois de changement, les erreurs de copiste par rapport à l'exemplaire sont l'équivalent des changements, des modifications, des lois dynamiques du monde. Aussi loin, dit Leibniz, qu'on remonte en arrière à des états antérieurs, on ne trouvera jamais dans ces états la raison complète pour laquelle il existe un monde et qui est tel. Je commente rapidement. L'explication physique d'un état du monde par l'état précédent dans une régression à l'infini, après tout, pourquoi pas, tant qu'on a une explication par un état antérieur, eh bien, pratiquons-la. Mais elle n'est pas incompatible avec la question métaphysique d'une explication de l'existence même de ces états avec leurs lois de changement. Ce sont deux choses aussi différentes, et c'est ici que la comparaison proposée par Leibniz prend sa saveur. Ce sont deux choses aussi différentes que le sont l'auteur d'un manuscrit et les copistes qui le retranscrivent. On peut admettre une série infinie de causes accidentellement ordonnées, par exemple des générations sans commencement ni fin, les recopiages successifs d'un exemplaire, mais l'existence même de la génération et des membres de la série en général réclame une cause essentiellement ordonnée, c'est-à-dire une cause dont dépendent l'existence de chaque cause et son pouvoir d'exercer la causalité. Il me vient une comparaison, je ne sais si elle est secondue, mais imaginez que l'Académie des sciences morales et politiques ait toujours existé et qu'il y ait toujours eu un secrétaire perpétuel qui mériterait pour le coup vraiment son nom, et qui ait toujours eu des recrutements, des élections, et que donc l'État, la liste des membres a été renouvelée de part en part, mais qu'il y ait toujours eu une académie. Cela n'expliquerait pas pourquoi. Et il faudrait un fondateur, qu'il fût Conrad, Richelieu ou un autre, plus récent. Alors, Guizot. Donc, l'idée, c'est qu'une infinité de causes intermédiaires ne nous dispense pas d'une cause première, mais première non plus au sens chronologique d'une antériorité, mais au sens ontologique d'une priorité. Je vais vers ma conclusion. Je me suis forcé donc d'isoler le concept métaphysique de création d'un allié encombrant, et on pourrait me reprocher stratégiquement de m'être débarrassé de cet allié encombrant. J'espère avoir montré qu'il s'agit véritablement d'une alliance contre nature. Si je récapitule les défauts du créationnisme, et encore une fois, sous cette étiquette, il faudrait différencier un certain nombre de choses. Il y a un créationnisme très folklorique, un créationnisme administratif, un créationnisme juridique, un créationnisme scientifique. Bon. Des lobbies créationnistes. Bon. Le créationnisme, si je l'ai bien compris, confond d'abord commencement chronologique avec origine ontologique. Il prétend en outre qu'il est possible d'accéder scientifiquement à un commencement absolu. Et il prétend enfin être en mesure de mettre en évidence l'intervention d'un agent surnaturel. En prenant le contre-pied exact de ces trois positions, la thèse métaphysique d'une création peut, me semble-t-il, être prise au sérieux. Elle ne commet aucune de ces trois transgressions méthodologiques. Et j'ajoute que, contrairement aux prétentions déductiviste des arguments traditionnels de la théologie rationnelle, ce qu'on appelle l'argument cosmologique, c'est-à-dire l'argument leibnizien, selon lequel la série de tous les états de l'univers, qu'elle soit finie temporellement ou infinie temporellement, réclame une raison, un auteur et pas simplement des antécédents, hein, un écrivain et pas simplement un copieur ou des copistes. Hein. Je pense que cet argument n'est pas un argument déductif, c'est-à-dire tel que les prémices étant admise, la conclusion doit immanquablement être acceptée. C'est ce qu'on appelle une inférence à la meilleure explication. Il reste une possibilité, et que je vais un peu discuter néanmoins, de considérer qu'au fond, le monde existe par lui-même. Épicure, après tout, a raison. L'idée, c'est que donc, si je construis la proposition suivante, le monde existe et Dieu n'existe pas, cette conjonction de propositions ne contient pas de contradiction. Il est possible, il me semble possible, de considérer que le monde existe de lui-même. Mais, pourra-t-on objecter, alors pourquoi refuser au monde la propriété d'exister par soi, si c'est pour l'attribuer au créateur ? Hume avait une comparaison amusante. Il disait, au fond, le principe de raison suffisante qui veut que, pour tout état de choses, on réclame une cause ou raison qui rende compte de l'existence de cet état de choses, on le fait fonctionner, et puis quand on arrive à Dieu, soudain, Dieu en est exempté. Il disait, au fond, les principes de l'argumentation ne doivent pas être comme les câbles, les taxis que l'on hèle et que l'on renvoie lorsqu'on n'a plus besoin. Si vous assumez le principe de raison suffisante, vous estimez que tout état de choses, toute entité, réclame une explication de son existence et ses propriétés. Et du coup, vous ne devez pas vous arrêter à la cause soi-disant première qui est Dieu. C'est une objection valable, c'est celle que reprennent beaucoup d'essayistes ou de philosophes, à savoir, au fond, le problème d'une régression des causes à l'infini, même s'il ne s'agit pas d'une régression temporelle à l'infini, continue à se poser. Et là, c'est un athée d'Oxford qui, curieusement, avec une loyauté, un fair-play remarquable, donne une solution. Il dit, au fond, si vous prétendez que, dans une série non temporelle, il existe un être qui est cause de la série temporelle finie ou infinie de l'univers, mais que cet être lui-même, principe de raison suffisante oblige, doit son existence et son mode opératoire à un autre, et ainsi de suite à l'infini, un empilement vertical de causes essentiellement ordonnées, eh bien, vous avez non pas un Dieu, mais un Dieu tellement puissant, un véritable Elohim, un pluriel divin, qui est encore plus respectable et impressionnant qu'un petit Dieu solitaire produisant un monde tel un artisan bien élevé. Donc, l'idée, c'est qu'on est, là encore une fois, en présence d'une inférence à la meilleure explication, mais pas d'un argument déductif. Pourquoi refuser au monde la propriété d'exister par soi, si c'est pour l'attribuer à son créateur ? N'y a-t-il pas une inégalité de traitement ? Là, je pense qu'on peut donner une autre raison que celle de John Leslie Mackey. Si l'univers était une seule et unique entité, lui refuser la propriété d'exister par soi pour l'accorder à Dieu pourrait relever du tour de passe-passe. Et comme dit joliment Diderot, lorsque Dieu, dont nous tenons la raison, en exige le sacrifice, c'est un faiseur de tours de gypsière qui donne d'une main ce qu'il enlève de l'autre. Mais si l'univers, loin d'être une chose, est beaucoup de choses, alors il devient plus difficile, je ne dis pas impossible, de reconnaître à beaucoup de choses l'existence par soi. Parce que reconnaître à beaucoup de choses l'existence par moi nous met en présence d'une énigme. Comment se fait-il, si chacune tient son existence indépendamment de toutes les autres, d'elle-même ou de nulle part d'ailleurs, comment se fait-il qu'il y ait des espèces naturelles, des familles de particules, des objets dotés de propriétés structurelles et de dispositions parfaitement semblables, des régularités, et je fais remarquer que je fais ce raisonnement indépendamment de tout bénéfice anthropique. Ce n'est pas un raisonnement finaliste, c'est un raisonnement sur les raisons qui peuvent expliquer qu'il puisse y avoir des lois de la nature, des régularités dans les relations entre des entités et des structures identiques, au sens où Feynman dit que quand on a vu un électron, on les a tous vus. Bon, même si ce genre d'énoncé ferait frémir des physiciens contemporains. C'est un argument qui n'avait pas échappé à Bacon dans son essai sur l'athéisme, ni à Voltaire dans son très ingénieux dialogue de Lucrèce et de Posidonius, ni à Maxwell, mais il s'agit bien d'un argument métaphysique, et dans cette fameuse conférence de Bradford des années 1870, Maxwell précise que la science, je le cite, « n'a pas de compétence pour raisonner sur la création de la matière à partir de rien ». Dans cette conférence sur les molécules, il s'interroge sur la possibilité que nous pouvons rendre compte d'un univers constitué de molécules ayant des poids atomiques réguliers, des charges électriques identiques, etc., sans leur supposer une origine métaphysique commune. Mais c'est un raisonnement métaphysique et non pas un raisonnement physicien. Cette spéculation métaphysique sur la création, pourrait-on dire, en quoi nous importe-t-elle ? Elle ressuscite un vieux débat, et on pourrait dire, par les temps qui courent, on n'a surtout pas besoin de restaurer cette idée d'un créateur, elle est dangereuse. Bon. La question, d'ailleurs, de l'existence d'un créateur est de nos jours enterrée, privatisée, au prétexte qu'elle serait source de troubles à l'ordre public, et que donc elle tombe sous le coup de l'article 10 du préambule de la Constitution. Les opinions, même religieuses, sont admises, mais sous réserve qu'elles ne troublent pas l'ordre public. Je suggère, pour conclure, qu'il me semble au contraire qu'un ordre public soucieux du respect inconditionnel de tout être humain n'a pas de meilleur fondement que l'existence d'un créateur. C'est ce qu'affirmait historiquement la Déclaration unanime des 13 États-Unis d'Amérique. Tous les hommes sont créés égaux et dotés par leur créateur de certains droits inaliénables. C'est encore ce que les constituants du 20 août 89 comprenaient au titre des droits naturels inaliénables et sacrés de l'homme, lesquels furent déclarés en présence et sous les auspices de l'être suprême, ces auspices étant une garantie, une autorisation en un sens. On peut bien sûr m'objecter que, tel un nain juché sur les épaules de Jefferson, de Mounier ou de Mirabeau, j'abuse de l'autorité de ces grands hommes. Alors posons la question conceptuellement, car il se pourrait qu'ils aient eu tort, ou voir raison leur temps, mais tort pour les jours que nous vivons. Je pose la question, quels devoirs absolus pourrions-nous bien avoir collectivement tous envers tous si nous ne devions pas toutes et tous l'existence d'un créateur ? Alors, je n'ignore pas les dégâts produits jusque dans l'histoire la plus récente par l'invocation d'un créateur au nom duquel on s'entretue. Et généralement, le philosophe se retire, oh là là, vu les dommages collatéraux engendrés par la mention d'un créateur, il vaut mieux s'abstenir. Je crois au contraire qu'il est plus que jamais temps de ne pas s'abstenir, évidemment non pas en instituant une religion d'État créationniste, hein, mais en acceptant que le débat soit repris pour précisément disposer d'arguments contre une utilisation, à mon avis, abusive et franchement malhonnête de l'autorité ou de la volonté d'un éventuel créateur. L'instrumentalisation macabre du créateur n'est pas un argument contre la légitimité d'une enquête métaphysique sur l'existence de ce créateur. Et je dirais que c'est plutôt un argument à double tranchant, car un créateur qui exigerait de telle créature qu'elle en égorgeât une autre n'est justement pas digne d'obéissance. Et au lieu de reléguer les questions religieuses dans la sphère privée et d'interdire tout débat sur la légitimité des croyances. C'est quand même étrange que les programmes de philosophie inscrivent la religion, mais jamais Dieu, comme question de débat philosophique, comme si cette question était réglée dans le fort intérieur purement subjectif de chacun, et qu'en aucun cas il ne fallut la déterrer. Alors, je propose de l'exhumer, mais évidemment, en connaissant les limites de cette exhumation, au lieu de reléguer les questions religieuses dans la sphère privée et d'interdire tout débat sur la légitimité des croyances, osons porter publiquement le débat sur ce qui est acceptable, tolérable ou irrecevable en matière de croyances religieuses. Demandons-nous, par exemple, qu'est-ce qu'un père qui commanderait à certains de ses enfants de supprimer leurs frères au seul motif qu'ils ne croient pas les mêmes choses qu'eux ou qu'ils ne vivent pas selon les mêmes principes ? Ce père serait un monstre. Un monstre est-il digne d'obéissance ? Non. Dieu peut-il exiger la mort d'êtres humains ? J'affirme ici que c'est douteux. Je sais bien que de Nombreuses traditions font du sacrifice humain un élément de test de l'obéissance du croyant à Dieu, mais je ne sache pas que nous soyons commis à une lecture fondamentaliste de tous les sacrifices, quels qu'ils soient, aussi bien dans la Bhagavad Gita que dans le livre de la Genèse. Donc Dieu peut-il exiger la mort d'être humain? Il est temps de dire non, ou en tout cas c'est très douteux. Il me paraît absurde de croire en un créateur qui s'accommoderait de l'élimination de ses créatures, voire l'ordonnerait. D'ailleurs, ce n'est pas en assassinant ce qui apparemment manque de respect envers Dieu qu'on établit un quelconque respect envers Dieu. Quel Dieu pourrait se déclarer satisfait d'obtenir le respect d'un cadavre? La destruction de l'œuvre qu'il a lui-même proposée. Dieu, s'il existe, peut-il exiger le sacrifice de la responsabilité et de la raison qu'il a par hypothèse donnée aux êtres humains, à cette hypothèse dévastatrice? Il me semble que nous avons le devoir de répondre non. Et au soi-disant Dieu qui dirait « tu », T-U-E, et non pas le tu boubérien de l'adresse personnelle, non, tu, T-U-E, chaque être humain a le devoir de répondre non. Au prétendu créateur qui dirait détruit, chacun a le devoir de rétorquer, tu n'es donc pas celui qui nous a créés libres et égaux en droit, tu n'es donc pas digne d'obéissance et de respect. Au supposé Père éternel qui dirait supprime tes frères, il faut objecter, alors pourquoi me les as-tu donnés? Tu n'as qu'à faire le sale boulot toi-même. Et sur ce chapitre, il me semble que chaque tradition religieuse a de quoi pratiquer un large examen de conscience. Je vous remercie de votre patience.